Mes sujets, je suis très content d'être parmi vous, mais quand même, hein, je me dis que les GBU me jouent un certain tour en m'assignant un sujet pareillement difficile. Il faut être un peu fou pour plonger dans les eaux traîtresses d'un sujet comme celui du temps et de l'éternité, dont on pourrait dire que les anges n'osent pas le frôler du bout de l'aile. Mais c'est aussi une excuse si ça fait flop, donc autant que nous nous engagions dans cette réflexion qui de toute façon concerne un sujet évidemment très important par les conséquences théoriques et pratiques qu'on peut en tirer. J'ai pensé mettre en épigraphe de ma présentation deux courts morceaux empruntés à deux auteurs très différents, très éloignés l'un de l'autre à beaucoup d'égards. Deux citations. D'abord une de Nietzsche. Nietzsche écrit dans « Ainsi parlait Zarathoustra » à la fin du morceau qu'il a intitulé « L'autre chant de la danse ». La peine supplie passe, mais toute joie veut l'éternité, veut la profonde, profonde éternité. La peine, la douleur supplie passe, mais toute joie veut l'éternité. L'autre auteur, c'est un auteur biblique, et on pourrait supposer, semblait, qu'il s'oppose de manière directe à ce Nietzsche, assassin de Dieu, saisi de vertige d'ailleurs devant cet acte à la fois collectif et qui le reprend à son compte. L'un des auteurs bibliques, mais c'est le plus étrange des auteurs bibliques, et aussi celui qu'on pourrait désigner par le titre de philosophe. Il s'agit de l'Ecclésiaste, qui se livre à une méditation sur le temps, au troisième chapitre de son livre. L'Ecclésiaste, au chapitre 3, évoque la diversité des temps pour lesquels les actions opposées sont tantôt appropriées, tantôt à rejeter. Il y a un moment pour tout, mais qui peut trouver le fin mot de ces adéquations? Et il commente ensuite, après avoir parlé de sept paires, deux fois sept paires de termes antithétiques, il commente en disant « J'ai vu le souci que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Tout ce qu'il a fait, Dieu, est beau en son temps. Et même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. » Ecclésias, chapitre 3, verset 11, les termes « la pensée de » sont rajoutés dans la version que j'utilise, qui est la version second révisée à la colombe. C'est parce que le cœur est l'organe de la pensée que ces mots ont été ajoutés pour clarifier le sens de l'expression, mais littéralement c'est « il a mis l'éternité dans leur cœur ». Et peut-être le sens est-il un peu plus large que simplement la présence d'une pensée de l'éternité. Deux citations entre lesquelles il se pourrait que se découvrent des convergences remarquables par deux penseurs qu'on n'associerait pas si spontanément. S'il y a une concordance au moins relative entre la formulation de Nietzsche, toute joie veut l'éternité, et l'expression de l'Ecclésiaste qui affirme que le cœur de l'homme a en lui, par disposition divine, l'éternité dans un sens ou dans un autre, j'observe un contraste dur entre les conceptions et les orientations typiques de l'homme ancien et de l'homme moderne. Je ne dis pas des anciens et des modernes pour ne pas suggérer qu'il s'agisse simplement de la controverse que l'on nomme de cette façon, mais l'homme ancien, l'homme moderne s'oppose presque du tout au tout, à propos du temps et de l'éternité. Et je voudrais prendre pour tremplin cette antithèse. Le seul fait d'en prendre conscience nous introduira, me semble-t-il, commodément au problème que nous avons à considérer. Les points que je vais aborder sont les suivants. J'exposerai premièrement ce contraste, et j'ai intitulé le paragraphe de la fuite au culte du temps. Puis je poserai la question dans une deuxième partie de l'instance intermédiaire entre les deux. Que s'est-il passé? Et je vous proposerai ensuite un certain nombre de considérations. De la fuite au culte du temps. Il y a quasi unanimité dans les religions archaïques et les philosophies qui y plongent leurs racines, car les premières philosophies sont manifestement très proches encore des formes de pensée religieuse. On repérait sans peine les traces du mythe chez les philosophes même qui tentent de s'affranchir de la pensée mythique. Donc, pratiquement partout, si l'on regarde du côté des religions ou des sagesses, des efforts vers la sagesse, le temps est affecté d'un coefficient négatif. Le temps, c'est du moins, le temps c'est de la dégradation. Le temps est ennemi. J'ai utilisé dans mon sous-titre la fuite du temps. C'est une expression courante, mais je la tords quelque peu, ou je joue sur elle. Si le temps s'enfuit, c'est pour tous ces anciens, pratiquement, qu'il y a une fuite de l'être. Comme quand on dit qu'il y a une fuite dans la salle de bain. L'être fuit quelque part. Le temps, c'est un écoulement qui est à l'avant, contre lequel on tente de lutter, ou auquel on tente d'échapper, ce qui est l'autre sens sur lequel je joue. L'homme ancien s'efforce de fuir cette réalité temporelle qui lui semble principalement négative. C'est le sens du mythe qui est actualisé dans le rite. Mythe et rite forment un seul ensemble. Les travaux de nombreux spécialistes l'ont, je crois, très très bien montré. Moi, je suis principalement en dette à l'égard de Mircea Eliade, qui a été le spécialiste numéro un de religion comparée pour toute la période, disons, du milieu du XXe siècle et du troisième quart. Un homme extraordinaire, hein, qui est un Roumain déjà célèbre, tout jeune dans son pays, qui avait aussi écrit des romans, qui vient à Paris, a une deuxième carrière française, écrit plusieurs ouvrages donc directement en français, et puis passe à Chicago et a fait une troisième carrière américaine, où il acquiert aussi un renom international. Et cette Eliade, donc, a tout spécialement concentré sa réflexion sur le mythe et démontré que l'effort principal du mythe, c'est de permettre d'échapper à ce temps qui use, qui désagrège, et que le mythe le fait en permettant de bondir en quelque sorte jusqu'au grand temps originel, qui est un temps paré des attributs de l'éternité. Le mot de temps est encore employé, mais c'est un temps qui ne passe pas. Il n'y a pas d'avant et d'après, c'est un temps fixe, et il est la vraie réalité. Le mythe, en racontant ce qui a été au commencement, en le jouant dans le rite, le mythe et son jeu dans le rite permettent de rejoindre le grand temps originel et d'effacer en quelque sorte le temps qui a passé. D'où la répétition d'ailleurs. C'est un monde de la répétition. la répétition chaque année du même rite qui est associé à la récitation du même mythe. L'intention du mythe est de permettre de s'évader du temps comme succession. Et avec une toute autre méthode, Lévi-Strauss est très près d'une telle interprétation. Il appelle en gros le mythe une tactique d'annulation de l'historique. Le mythe permet un rééquilibrage des oppositions de la vie et permet de compenser ce que les accidents temporels ont suscité. C'est une tactique d'annulation par rapport au devenir à l'œuvre du temps. Quand la pensée mythique elle-même se développe, se crée souvent comme un stade ultérieur, plus simplement la répétition mythique massive, un mythe que Kéliade a bien beaucoup étudié aussi, c'est le titre d'un de ses livres, le mythe de l'éternel retour, qui exprime de nouveau que le temps, au bout du compte, ne vaut rien. Il s'agit de rejoindre l'immobilité première et dernière, la plénitude qui ne passe pas. Mythe de l'éternel retour. Et puis dans les philosophies, alors, qui prolongent la notion d'éternité comme pur présent, comme immuabilité pleine, immutabilité pleine. C'est la notion de Parménide, le père Parménide, comme l'appelait Platon, l'un est, tout d'un coup. Et rien d'autre ne peut être dit. Aucun passage, aucun devenir. Tout devenir n'est qu'illusion, négation très radicale du temps. Et Platon, lui, n'est pas aussi radical, bien que Parménide garde à ses yeux un prestige indiscutable, mais il définit le temps comme image mobile de l'éternité qui, elle, demeure, une définition qu'il donne dans le Timée, et cette image mobile est une image qui signifie dégradation, avec un effort pour imiter le temps dans la figure du cercle. Le cercle qui fait que, on a bouclé la boucle, on revient au même point. Le cercle est une image de perfection imitative du pur présent, sans aucune succession, que signifie l'éternité. Pour aussi lire une citation, j'ai avec moi de Plutarque qui souligne dans un écrit sur le « Hey » du temple de Delphes, le temple d'Apollon, où il y avait inscrit « Tu es Hey » dans un écrit donc sur cette inscription, que l'éternité divine ne comprend aucun avant et après, que le toujours est rempli par le maintenant. C'est la même conception fondamentale de cette éternité pure présent opposée à un temps dévalué. Alors notons que cette pensée s'explique assez aisément si nous nous rappelons quelques éléments de l'expérience humaine commune. C'est l'expérience de l'usure. Tant va la cruche à l'eau qu'elle se casse. Tout finit par se déglinguer. Il y a des choses qui résistent un peu plus longtemps que d'autres, mais le temps mène tout à sa perte. Et le temps nous mène à notre perte. Le temps, inexorablement, commet l'irréparable outrage de la détérioration de notre propre organisme. L'apôtre Paul, dans la deuxième partie de la Bible, dira de notre corps, de toute notre personnalité extérieure, l'homme extérieur se détruit au fil des jours. Il va se détruisant. C'est c'est ce que l'on constate inéluctablement. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12, il y a une description en un langage codé que l'on décode facilement sur les atteintes de la vieillesse. Rappelle-toi que des jours viennent où ce ne sera pas si facile, où monter les côtes fera tirer la langue. Et oui, moi je commence à le ressentir quelque peu. Où les dents qui restent de bonnes dents, eh bien, elles ne sont plus très nombreuses. Vous avez un passage qui évoque cette usure de l'homme lui-même au fil du temps. Et puis, je pense qu'on peut interpréter cette valorisation négative du temps et cette conception de l'éternité dont nous parlons comme apparentée au labeur même de l'intelligence. L'effort de l'intelligence, c'est d'unifier face à la pluralité de l'expérience brute. L'individu est perdu, c'est affolant, comment s'y retrouver? C'est un tourbillon, c'est une succession, et l'effort de l'intelligence consiste d'abord à unifier, prendre ensemble, comprendre cette diversité autrement mortelle. Donc l'effort de l'intelligence consiste à viser l'un à travers la diversité de l'expérience dans son premier stade. Ce qui veut dire que l'un va se trouver valorisé, que du côté de la pluralité, et la pluralité des instants qui se succèdent dans la vie en est peut-être la forme la plus marquée, le côté de la pluralité sera associé à ce à quoi il faut échapper, et l'unité correspondra au vœu que formera l'intelligence, au but qu'elle visera, et il y aura comme un rêve de pure unité qui sera représenté par la notion d'éternité dont nous parlons. Pour ceux qui sont arrivés quelques minutes après que nous avons commencé, j'espère qu'ils n'ont pas été pris au piège d'une annonce erronée de l'heure de commencement. Je récapitule ce que nous avons fait jusqu'à ce point, après avoir évoqué deux citations de Nietzsche et de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. J'ai dit que je partais du contraste assez saisissant entre deux attitudes fondamentales concernant le temps et l'éternité, celle de l'homme ancien et celle de l'homme moderne. L'homme ancien dévalue le temps. Le temps est une réalité négative pour lui. Il essaie d'y échapper et il pense une éternité pure présent. L'homme moderne, nous fait assister à cet égard à une révolution entière du regard. Et les deux mots même que j'emploie dans cette phrase sont significatifs. Révolution. Le mot révolution pour l'homme ancien signifie précisément le parcours circulaire entier qui fait revenir au point de départ. Les révolutions célestes, chez les opérantiens, c'est le parcours des orbites qui correspondent à des cercles plus ou moins parfaits, mais la révolution, précisément, ne change rien. C'est une figure qui est au service de l'immuable. Or, vous le savez, le sens a radicalement changé pour nous. C'est un propre de la modernité que le mot révolution évoque l'événement qui fait discontinuité dans l'histoire, à partir duquel les choses changent, et changent en général pour la mentalité moderne, dans un sens positif. La révolution est valorisée, événement éminemment temporel. Et bien sûr, la révolution par excellence, c'était la Révolution française, qui a servi de modèle intellectuel intellectuel a beaucoup de réflexions, et nous avons du mal, je crois, à à nous représenter la profondeur de l'ambition des révolutionnaires. Précisément à propos du temps, ils ont changé le calendrier. Une nouvelle ère, l'an 1 de la République. Changer le calendrier ordinaire, les mois, les jours, la décade au lieu de la semaine, etc. Ça a été une ambition quant au temps extrêmement significative. Donc premier signe de ce renversement, la mutation de sens que le mot révolution lui-même a connu. Et puis le mot moderne lui-même. Le mot moderne est très intéressant. Le mot moderne, modernus, peut simplement dire récent. Il s'agit donc, lorsque l'on exalte la modernité, de dire simplement ce qui est récent est meilleur. Il y a un jugement de valeur comme sous-jacent dans le choix du terme. Ce qui est moderne, c'est ce qui vient de se passer. Et nous assistons aujourd'hui à une surenchère avec l'usage de l'adjectif composé post-moderne, qui est absurde selon l'étymologie, puisque ce qui vient de se passer, c'est ça qui est moderne. Alors post-moderne. Mais le slogan est quand même significatif, c'est un slogan assez racoleur, qui veut faire croire, parce que c'est cela qui est valorisé à l'inauguration d'une ère nouvelle. La mutation, les mutants, voilà ce qui reçoit l'attention et d'emblée, a priori, un jugement positif. J'estime qu'il y a là un prolongement de la modernité, et moi j'ai essayé de proposer qu'on dise plutôt modernité post que postmodernité, pour marquer qu'il s'agit d'un avatar de cette même modernité, avec certains traits. C'est sûr, des différences significatives, mais aussi une même intention fondamentale. Alors, du côté de cette modernité, vous savez bien, il y a valorisation du temps, avec des formes très diverses. Il y a l'idéologie du progrès. Ça, c'est presque un symptôme grossier de cette valorisation. Si c'est vieux, c'est périmé. Si c'est nouveau, alors c'est valorisé parce que tout progresse. Il y a le choix d'un point de vue génétiste pour expliquer les choses. On explique les réalités par leur genèse. J'aime beaucoup, ceux qui ont suivi certains des cours savent que je répète parfois la formule, la façon de dire que j'ai une fois lu chez quelqu'un, je ne sais plus qui, pour contraster les opérations intellectuelles caractéristiques de l'homme ancien et de l'homme moderne. Pour un homme ancien, une chose devient ce qu'elle devient, un être devient ce qu'il devient, parce qu'il l'est. Parce que c'est son essence immuable qui s'actualise. Donc la clé du devenir se trouve dans l'essence, qui passe de l'état potentiel à l'état actuel. Pour le moderne, une chose est ce qu'elle est parce qu'elle l'est devenue. C'est la genèse temporelle d'un être qui vous permet de comprendre ce qu'il est aujourd'hui. Vous voyez le renversement de point de vue à nouveau, la méthodologie radicalement autre des processus de la pensée. Alors avec cela, il y a tous les évolutionnismes qui vont précisément. Une chose est ce qu'elle est parce qu'elle est devenue. Même les caractéristiques spécifiques des êtres vivants. Il y a les historicismes, toute la réalité interprétée comme histoire, sans rien qui soit au-dessus ou en marge de cette histoire et puisse constituer une instance fixe à partir duquel l'histoire pourrait être évaluée. C'est l'histoire qui est l'unique sujet. Et puis alors, l'empire de l'éphémère. Tout le jeu des modes toujours accélérés. Là, j'emprunte bien sûr le titre des livres de Lipovetsky. Alors, corrélativement avec cette valorisation du temps, caractéristique de la modernité et de certains des prolongements, l'éternité pâlit à l'horizon et finit par disparaître. Et les thèmes associés un aperçu classique de l'éternité, unité passive, immutabilité sont dévalués. Ah, c'est là du figé, du sclérosé. On se détourne avec une inversion évidente. Ce qui demeure est pour les demeurés, pourrait-on dire. Comme attitude typique. Et là, vous pouvez contraster encore avec Victor Hugo. Victor Hugo, dans son très beau poème sur le crucifix, le vers, si je me rappelle bien, « Vous qui passez, venez à lui, car il demeure. » Mais cela n'est pas l'attitude moderne qui inverse. Alors d'où tirent leur assurance ceux qui adoptent ce point de vue typique de la modernité? L'expérience de la croissance selon le temps, qui fait que nous ne sommes pas restés, aucun d'entre nous, au stade d'évanouissement de la maternité, c'est une expérience évidemment positive du temps. Mais elle a été de toutes les époques, et les anciens la connaissaient aussi, donc ce n'est pas elle qui fait la différence. Je pense que un des facteurs auxquels d'emblée les modernes peuvent faire référence, c'est l'évidence du progrès réel, scientifique et technique, qu'a accompli l'humanité. C'est vrai que c'est un phénomène énorme, que c'est la grande différence entre la Terre d'il y a 3 ou 4 000 ans et la Terre d'aujourd'hui. Et cela s'est produit grâce au caractère cumulatif de la science et de son application. C'est parce que chaque génération peut accroître d'un peu qu'il y a effectivement un progrès, que le temps est orienté, que ce n'est pas simplement du surplace, que le temps en figure positive. Alors ce fait-là a joué un rôle important. Je pense qu'on pourrait parler aussi de l'occultation de la mort. Pour l'ancien, la mort est omniprésente. Combien d'enfants qui meurent en bas âge, pour la femme des temps anciens, c'est inimaginable maintenant pour nous, bien que ça se produise encore dans certaines régions du monde, mais je parle de notre expérience d'Européens occidentaux, tellement favorisée. Il y a une moindre présence de fait de la mort. La longévité, la médecine, peut-être aussi l'isolement des familles, font que des enfants peuvent passer toute leur enfance et accéder à l'âge adulte sans avoir connu la mort de manière proche. Ce qui n'était jamais le cas dans les sociétés de type archaïque. Donc il y a un effacement de la réalité expérimentale de la mort, jusqu'à un certain point en tout cas. Je pense aussi, ça c'est beaucoup plus subtil et je ne prétends pas l'analyser, mais intuitivement je crois que ça m'a compris. Ce que j'appellerais une immunisation à l'égard de la réalité de la mort par sa pseudo-présence médiatique. La mort est très très largement présente sur les écrans, puisque c'est le mode principal de communication de masse. Mais justement, ce n'est pas une mort qui touche le téléspectateur. Et il est comme immunisé par le spectacle alors multiplié de la mort fictive, c'est du cinéma, et même de la mort réelle, c'est loin. Cela se trouve atteint par un certain coefficient d'irréalité du fait de cette médiatisation. Et je pense que ça fonctionne comme une sorte de vaccination contre le sens de la mort proche et de sa menace. Et puis sans doute y a-t-il une volonté dénégatrice à l'égard de la réalité de la mort. Donc un contraste très très puissant entre la valorisation ancienne de l'éternité, des valorisations du temps, et l'inverse dans la modernité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Si l'on cherche comment le renversement de la fuite au culte du temps s'est produit, je crois que la réponse n'est pas douteuse, que l'on soit croyant chrétien, juif, chrétien ou non. Si l'on fait de l'analyse culturelle à la manière, par exemple, de Jean-Claude Guibaud, on ne peut pas, en douter. Entre les deux, c'est l'impact de la révélation judéo-chrétienne qui a opéré le renversement. La modernité est pour une grande part sécularisation de cet apport judéo-chrétien, c'est-à-dire biblique, puisque la Bible est formée des Écritures saintes d'Israël et du document de la Nouvelle Alliance qui est celle de l'Église chrétienne. Cette sécularisation de l'apport chrétien qui fait que beaucoup de choses de la modernité sont, selon l'expression de Chesterton, des vérités chrétiennes devenues folles, déracinées, sécularisées. Ce caractère de la modernité se voit dans le couple Renaissance-Réforme, déjà, si l'on admet ce que je fais, que la modernité plonge ses racines tout spécialement dans la Renaissance. La Renaissance et la Réforme sont deux mouvements qui se sont opposés à bien des égards, et vous pouvez, notre mémoire française, dresser Rabelais contre Calvin, Calvin contre Rabelais, par exemple. Mais en même temps, ce sont deux mouvements qui ont eu de puissants liens et une grande solidarité. Et c'est avec les armes de l'humanisme qui, finalement, c'est le nom de Renaissance, que la Réforme a aussi travaillé. Vous avez nombre d'esprits qui ont été touchés par les deux mouvements à la fois, et il y a aussi des éléments de similitude. Cela, je pense, va dans le sens de ce que je vous suggère. L'esprit de la Renaissance qui a engendré la modernité a été aussi marqué par l'influence biblique remise au centre par la Réformation. Puis il y a les grands historicismes, ça aussi c'est très significatif. Les grands historicismes, Hegel, l'œuvre de Hegel, et puis celle de Marx, qui a, selon sa propre expression, renversé Hegel pour que l'homme de Hegel qui marchait sur la tête marche sur ses pieds, mais qui a gardé la dialectique hegelienne, et la même vision toute historique, toute la réalité n'est qu'une histoire. Or, Hegel était un croyant luthérien, certes, non pas orthodoxe, mais qui a cru pouvoir transposer en philosophie ce qu'il trouvait dans sa Bible. Il a cherché son inspiration dans la Bible de son Église. Et c'est pour cela qu'on a pu dire, c'est le théologien Karl Barth qui l'a dit, que l'œuvre de Hegel, pour un chrétien, c'est la plus grande tentative qui ait été faite en philosophie, et la plus grande tentation. Parce que c'est un renversement de sens radical, mais avec une influence chrétienne biblique tout à fait évidente. Et avouez, c'est Hegel lui-même qui déclare son intention, qui parle de son œuvre comme un vendredi saint spéculatif. Et puis Marx, le disciple, a été comparé souvent à un prophète juif. Il était formé d'héritier de la culture juive par sa famille, mais son père s'était converti au luthéranisme, sans doute plutôt par intérêt, par conformisme social, donc il était marqué aussi par quelques influences luthériennes, mais aussi héritier d'une tradition juive, et on a pu trouver dans ses accents des accents qui rappellent beaucoup les prophètes des écritures juives, et le rôle qu'il assigne au prolétariat a été comparé au rôle du serviteur souffrant dans les prophéties du prophète Isaïe, la vision de la société sans classe, celle du royaume de Dieu qui vient à l'horizon des promesses bibliques. Vous avez là aussi une sécularisation de l'espérance biblique. Si l'on considère l'histoire de l'humanité, on constate que c'est dans la Bible, pour la première fois, et je crois d'une manière sans pareil à ce degré, que l'histoire spatio-temporelle, l'histoire au sens littéral, banal, les événements qui se produisent sur cette terre, dans un temps de calendrier, où cette histoire est valorisée comme elle l'est. C'est dans la Bible et nulle part ailleurs. Et quelqu'un comme Pierre Eliade l'a dit très très fort, et il a noté que si c'est déjà vrai pour ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, pour le Tanakh, la manière de parler juive, avec les hauts faits de Dieu, l'action libératrice du Seigneur à des points successifs de l'histoire, cela se radicalise encore dans le Nouveau Testament, où tout est déterminé par l'événement clé, pleinement historique, dans le temps historique tout proche, de la croix de Jésus-Christ et sa résurrection. Toute l'histoire est déterminée par cet événement qui fait discontinuité, et c'est tout le sens des relations avec Dieu, de toute la destinée humaine en dépend. Ça a été très, très bien vu, j'ai une citation ici d'Henri-Charles Puech, qui, je ne sais pas s'il était au Collège de France, en tout cas il était l'un des très, très grands érudits, spécialistes du gnosticisme, des documents retrouvés à Nag Hammadi par exemple, et il note ceci pour le christianisme, et il voit très bien le contraste avec ce qu'on a ailleurs. Le déroulement de l'histoire est ainsi commandé et orienté par un fait unique, radicalement singulier. Et par suite, le destin de l'humanité tout entière, de même que la destinée particulière à chacun d'entre nous, se joue, eux aussi, en une seule fois, une fois pour toutes, dans un temps concret et irremplaçable qui est celui de l'histoire et de la vie. Valorisation du temps qui, d'ailleurs, s'énonce d'emblée lorsque l'on prononce le mot « évangile ». Le christianisme ne propose pas une doctrine, d'abord, ne propose pas d'abord une série de choses à faire ou même à croire. Il annonce une nouvelle, évangile veut dire bonne nouvelle, grande nouvelle, éventuellement. Le préfixe était peut-être plus tout à fait perçu comme indiquant la bonne nouvelle, mais de toute façon, c'était une bonne nouvelle, c'est la nouvelle. C'est quelque chose qui vient de se produire et que l'on proclame sur la place publique. Prêcher, c'est faire le héros, comme autrefois dans les villages, roulement de tambour, avis à la population. C'est la nouvelle qui est proclamée parce que c'est quelque chose qui vient d'arriver. Et encore d'une autre façon, le temps est valorisé, comme on l'a remarqué, dans les cultures archaïques, comme nous l'ont dit, comme nous l'avons vu, le temps est usure et qui dégrade, et du coup, s'il y a un temps aimé, c'est le temps du commencement, l'âge d'or, à partir duquel les choses se dégradent successivement. Dans la perspective biblique, le temps vers lequel tous les désirs se tendent, c'est le temps à venir. C'est ce temps du royaume de Dieu, où Dieu a promis l'établissement, et qui sera plus beau encore que le temps du commencement perdu. Là aussi, vous avez le contraste qui apparaît. Et le Dieu biblique est le Dieu vivant qui intervient dans l'histoire, capable de s'y manifester jusqu'à s'y incarner. Mais attention, ce n'est pas le Dieu des modernes ou l'absence de Dieu des modernes. Il reste le Dieu qui ne change pas. Le Dieu dans lequel, comme le dit l'épître de Jacques au premier chapitre, il n'y a pas ombre de variation. Le Dieu qui proclame son nom à Moïse, « Je suis ». Le Dieu qui est appelé le roi des âges, roi des siècles, roi des âges, par la première épître de l'apôtre Paul à Timothée. lui qui conduit toute l'histoire selon un dessein qu'il a conçu en lui-même dès avant la fondation du monde, qui n'est surpris par rien, pour lequel aucune nouveauté imprévue ne saurait surgir, car il maîtrise tout absolument. C'est aussi le Dieu de la Bible. Alors cet élément que je viens d'évoquer, ce Dieu est le Dieu éternel, et l'éternité ce n'est pas la même chose que la temporalité des créatures. Ce Dieu éternel, contrasté comme celui qui ne change pas avec ces créatures qui ne sont qu'un souffle, qui sont comme l'herbe qui pousse le matin et le soir à sécher. Ce thème-là concernant Dieu, que la sécularisation a éliminé, cette dimension qui a été exclue par les modernes, a permis à la théologie chrétienne traditionnelle, c'est les pères de l'Église, pendant le Moyen-Âge et encore par la suite, d'accrocher au message biblique ce qu'elle avait appris de la philosophie grecque. Puisque Dieu dit « Je suis, je ne change pas », donc on conclut, les penseurs chrétiens, les pères de l'Église, donc ce que les Grecs ont dit de l'éternité peut en effet lui être attribué. Il est le Dieu dont la perfection d'être ne comporte aucune fissure, aucune variation, donc aucun avant, aucun après. C'est le pur présent qui n'inclut aucun futur non réalisé, aucun passé qui s'éloigne. La plénitude du pur présent comme un seul instant éternel. Voilà ce qu'on dit, très couramment, les théologiens de la tradition chrétienne. Il y a eu saint Augustin. Il n'était pas le premier, mais il a été le plus grand des ceux qui ont réfléchi à cette question du temps. Et il a d'ailleurs lui apporté quelque chose de plus. Il ne s'est pas contenté donc de greffer la conception platonicienne de l'éternité sur ce que la Bible lui disait de son Dieu, mais il s'est rendu compte qu'il y avait une tension entre cette vision de l'éternité divine à laquelle il a cru de tout son cœur et la valorisation de l'histoire dans la Bible. Et c'est sans doute ce qui l'a conduit à une percée philosophiquement très intéressante et sur laquelle on réfléchit encore aujourd'hui, associant la temporalité au sujet, à la subjectivité. Ce qui est fait dans le livre 11 des Confessions, qui est un très très, très grand passage. Mais la note dominante, par la suite, a été celle de cette éternité divine qui ne passe pas, pur présent. Pour Dieu, il n'y a pas de passé et d'avenir. Pour Dieu, il n'y a pas d'avant et d'après. Un temps répété. Et souvent, le langage biblique de l'avant et de l'après, pour Dieu intervenant dans l'histoire, a été expliqué comme une simple façon de parler, un anthropomorphisme, une manière infirme, seulement humaine, de dire des choses qui n'étaient pas après de manière stricte. Et certains auteurs, alors, au XXe siècle, je parle encore du XXe siècle parce qu'au XXIe siècle, il n'y a pas eu autre chose d'écrit, au XXe siècle, ont réagi et ont accusé, au nom de la Bible, ces auteurs de la grande tradition classique d'avoir trop cédé à la philosophie finalement d'origine païenne des Grecs, de Platon et du néoplatonisme au lieu d'avoir suivi strictement la Bible. Ça a été le cas du professeur Oscar Kuhlmann qui enseignait à la fois à l'université de Bâle et à Paris. Il faisait le voyage tous les 15 jours. Il est enseigné à l'école pratique des hautes études et à la faculté de théologie protestante de Aragon, dans son livre Christ et le temps. Ça a été aussi le cas d'un théologien orthodoxe à l'Institut Saint-Serge à Paris, et ça c'est particulièrement étonnant étant donné les tendances habituelles de la théologie de l'orthodoxie orientale, Serge Bulgakov. Et je vous lis un assez long passage, mais je crois qu'il vous intéressera, de Serge Bulgakov dans son traité du Verbe incarné, posant la question quel est le rapport entre le temps et l'éternité, en Dieu même, l'éternel. Il écrit « La vie le plus simple et le plus répandue consiste à dire que pour Dieu le temps n'existe tout simplement pas. puisque son déterminés, le rendent absolument transparent et le dissout. Le temps n'existe que pour la création comme quelque illusion, en vertu de sa condition limitée, mais non pas pour Dieu, pour qui l'éternité seule existe. C'est en effet la position qu'on rencontre très très souvent dans la théologie traditionnelle. Cependant, ce point de vue, poussé à sa conclusion, provoque de grosses difficultés. Et d'abord, toute la Bible, récit divin des relations de Dieu avec l'homme, de l'économie divine, en est la négation absolue. La révélation de Dieu aux hommes et toutes les œuvres de Dieu dans le monde y sont figurées comme se produisant dans le temps, aussi bien par rapport à Dieu que par rapport à l'homme. Ne considérer cela que comme un anthropomorphisme inévitable, le dépouiller de sa réalité, c'est ébranler tout le contenu de notre foi et transformer Dieu créateur et tout-puissant, vivant, miséricordieux et sauveur, en l'absolu immobile de l'hindouisme, où s'éteint tout être concret et où le monde entier devient illusoire. Et certes, dès lors, le plus difficile est de comprendre et de recevoir l'incarnation divine, avec tous les événements correspondants de sa vie terrestre du Sauveur, de la vie terrestre du Sauveur, tels que sa résurrection et son ascension. Vous voyez la force de cette... En fait, sacrifier l'originalité de la vision biblique à une notion préconçue de l'éternité, opposée au temps, le temps étant dévalorisé, conception héritée de la Grèce. Alors, quelles considérations vais-je vous proposer ? Considérations actuelles ou inactuelles, pour évoquer Nietzsche encore, à vous de juger. Je ne peux suivre aucune des deux tendances dominantes de l'Antiquité ou de la Modernité. Et vous vous en doutez peut-être un peu après ce que j'ai déjà dit. Il me semble que des traits clairement dessinés de l'expérience humaine les démentent l'une et l'autre. Que l'histoire puisse avoir un sens, qu'elle porte un certain progrès, s'atteste encore trop puissamment pour que la fuite hors du temps, par le rite et le mythe, soit pour moi une option. Et je remarque que même les déçus de l'historicisme moderne, car les postmodernes sont souvent des déçus de cet historicisme, n'y retournent pas. Et s'ils essaient certaines fuites à l'oriental, c'est souvent en travestissant radicalement le sens des pensées orientales en cause. Mais ils ont bien vu, d'autre part, que le culte du temps s'auto-détruit, que l'idolâtrie abolit la réalité même qu'elle absolutise. Le temps absolutisé, qu'il n'y a que le temps, devient inventable. Si le temps est l'absolu, sans aucune autre référence que lui-même, comment le rassembler ? Quelle garantie aurons-nous que les événements se lient les uns aux autres, qu'il y a un temps et non pas une poussière de temps ? Ou bien si on affirme qu'il n'y a finalement qu'un seul temps, alors comment sera-t-il autre chose qu'un seul bloc, aussi étouffant qu'aucune conception parménidienne de l'éternité n'a pu l'être ? Donc, la difficulté est, je crois, insoluble. Je peux désigner un passage très intéressant dans un livre d'un professeur d'Oxford, dans l'Ever O'Donovan, qui a eu des liens avec les groupes bibliques universitaires en Angleterre. Dans le livre, alors je n'ai malheureusement pas la page et le titre exact en français, dans le livre Resurrection and Moral Order, a été publié par les presses universitaires de France, en traduction française, ce qui est une connaissance intéressante, et page 60 de l'édition anglaise, j'ai donc cette année que je me réfère, il dit « Quand le monde est dissous en histoire, l'histoire n'a plus de sujet, et il n'y a plus d'histoire. Tout se dissout. Il nous faut une pluralité réelle, mais unifiée par un terme distinct qui la fonde et qui la domine. » Donc, oui, cette dévalorisation radicale du temps, pure dégradation au profit d'une éternité qui n'est qu'un bloc, un pur maintenant, ni un temps qui serait absolutisé, mais du coup se dissoudrait. L'expérience humaine du temps me semble corroborée. Là, je me tourne vers l'analyse qu'on peut faire, bien sûr, je me contente de quelque chose de rudimentaire, de l'expérience que nous faisons du temps. Il y a une pluralité, d'abord subie, dimension cosmique du temps. Le temps correspond au rythme du fonctionnement du monde, des astres. Il y a le calendrier. Nous sommes tous d'abord soumis à ce temps, et d'ailleurs l'heure commune à notre foyer, à chacun, en est un signe très significatif. Mais nous ne sommes conscients de cette pluralité dont nous subissons la règle que par un certain dépassement. Pour que le temps soit chose consciente, il faut que la créature temporelle ne soit pas seulement temporelle. Sinon, c'est comme l'animal, il n'a pas conscience du temps, pour autant que nous puissions savoir. Il n'y a pas conscience du temps, ça implique un certain recul par rapport au temps, une certaine domination. Il semble que même Platon soit venu assez près de cette intuition, et j'ai pêché chez un théologien aussi du XXe siècle une illustration qui me semble très, très appropriée. L'homme est dans le temps comme le nageur dans le fleuve. Il est plongé dans le temps, mais s'il ne doit pas se noyer, il faut que la tête, le nez au moins, soit au-dessus de l'eau. L'homme est dans le temps, mais il est aussi hors du temps, il domine le temps. C'est le phénomène de la mémoire, de la projection, qui montre que l'homme n'est pas simplement là, entraîné par l'écoulement de la succession des moments, mais qu'il s'élève au-dessus, et qu'il embrasse plusieurs moments du temps. Il structure la succession même de ces moments. Cela signifie aussi que la vocation humaine se réalise peut-être une de ses façons les plus centrales, dans la fidélité. Dans la fidélité, l'homme se montre cet être temporel qui domine le temps, qui subsiste à travers le temps et librement, en agissant et dans des temps pas seulement agis par cette succession. Et je crois que c'est exactement l'enseignement du passage de l'Ecclésiaste que nous avons lu au commencement. Dieu a soumis à coup sûr à la diversité des temps qui se succèdent l'être humain, mais il a aussi mis l'éternité dans le cœur. L'être humain a cette accession à un autre niveau, à ce dépassement possible, cette transcendance, si vous voulez, par rapport au flux temporel même dans lequel il baigne, il a l'éternité dans le cœur, ce qui l'exauce au-dessus du flux lui-même, lui permet d'en avoir conscience, lui permet de prendre une responsabilité dans ce flux, d'agir et de ne pas seulement être agi. Cependant, c'est sans maîtrise totale. Il maîtrise partiellement la succession. Il a l'éternité dans le cœur pour rassembler des moments, leur donner sens, reconnaître leur sens, mais il ne maîtrise pas toute l'œuvre que Dieu fait depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est une maîtrise partielle qui dépend de la maîtrise totale que Dieu a lui-même de cette succession. Et là, nous aboutissons à la vision que je crois, la vision biblique, l'homme, créature unique en image de Dieu. Créature temporelle, créature terrestre, soumise à tous les rythmes du cosmos, selon les lois de son fonctionnement, mais en image de Dieu, capable de s'élever au-dessus de cet environnement terrestre pour communiquer avec celui qui domine le temps, mais qui ne lui est pas radicalement étranger. Et de même que Dieu maîtrise totalement la diversité des temps, il est donné à l'homme pour pouvoir dialoguer avec Dieu, pour pouvoir le connaître, entendre sa parole et lui répondre. Il est donné à l'homme de maîtriser partiellement cette diversité. Ainsi, il peut comprendre ce que Dieu lui dit. Dieu a mis le temps dans le cœur des humains, bien qu'il ne maîtrise pas toute l'œuvre que Dieu fait, et c'est pour ça qu'ils ont besoin que Dieu leur parle. Ils ne sont pas des petits dieux, mais ils sont comme des fils et filles de Dieu, ils sont des images de Dieu terrestres pour pouvoir dépasser le flux temporel, être en rapport avec l'éternel. L'éternité de Dieu, si je vois bien, selon cette ligne de pensée, ce n'est pas donc le pur présent pour lequel le temps n'existe pas. Dieu a suscité le temps, sa succession liée et ordonnée. Et l'éternité de Dieu, c'est la maîtrise harmonieuse qu'il a radicalement de cette succession qui procède de lui. Et il est donné à l'homme de participer à la fois à la temporalité et à l'unification de ce multiple par laquelle le sens est établi. Précisément parce que il est donné à l'homme de répondre ainsi par le dépassement du flux temporel qui correspond à sa liberté, il est possible aussi pour lui de faire des usages de cette capacité qu'il reçoit, ayant l'éternité dans le cœur. Il peut refuser de manière ingrate et sotte l'autorité fondatrice qui donne l'équilibre et l'épanouissement à sa vie. Et c'est cela que la Bible évoque lorsqu'elle parle du mal. Si les choses vont mal, c'est à cause de cette défection radicale, collective et individuelle de l'humanité. Et c'est à cet événement de la défection que réplique l'événement dont l'Évangile est la nouvelle, l'événement de l'intervention de Dieu qui compense et répare pour la défection avec ratification individuelle pour chacun. C'est l'invitation que la Bible adresse à chacun face à ce qui s'est passé en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Voilà, merci d'avoir suivi l'exposé jusqu'à ce point. Je suis disponible pour un moment d'entretien maintenant, selon que le président le décidera.
Merci beaucoup. Je voudrais savoir si vous avez des questions. Normalement, c'est vers 45. C'est 21h. Ok, d'accord. Donc, on a au moins 20 bonnes minutes de questions, questions-réponses. Donc, je dirais ça à vous.
Oui.
Vous avez dit qu'il y a un lien avec la pratique.
Oui.
Tu sais quoi, ce lien?
Oui. Alors, c'est ce à quoi j'arrivais à la fin. J'ai parlé de manière peut-être un petit peu allusive, mais j'ai dit que la ratification individuelle, c'était à cela que la Bible invitait par rapport à l'événement de la réparation que la venue de Jésus-Christ a réalisée. Ça veut dire se disposer devant lui, accepter l'offre qu'il fait de la réconciliation avec Dieu, d'une réinsertion dans le plan de Dieu où les moments divers de la vie sont réunifiés au lieu d'être dispersés dans le bon sens. Alors, un point que je n'ai pas élaboré, j'aurais voulu, je me suis dit non, j'ai pas le temps simplement. J'en ai dans mes notes, hein, mais c'est concerne la mort. J'ai montré à quel point il y avait un lien entre les deux attitudes de l'ancien et du moderne à l'égard de la mort. J'aurais pu montrer que c'est aussi par rapport à la mort que la défection qui rompt les équilibres de la vision que l'Ecclésiaste nous suggère, et la réparation par la venue de Jésus-Christ, et l'acceptation de ce que Jésus-Christ a fait pour chacun personnellement, que c'est par rapport à la mort que ça joue. Lorsqu'on se détourne du Dieu qui fonde la diversité temporelle et qui la conduit à son but, on glisse effectivement vers le néant, là, la mort, le temps, on vit à la mort. Mais Dieu est le Dieu vivant. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, comme a souligné Jésus-Christ. Le problème de notre destination à la mort est aussi traité, résolu par cette acceptation du fruit de l'œuvre historique de Jésus-Christ. Alors cette acceptation de l'œuvre historique de Jésus-Christ, c'est ce qu'ils appellent dans un langage plus courant, mais j'ai essayé d'éviter un petit peu le langage courant, la conversion non pas à une religion ou à une église, mais la conversion à Jésus-Christ, le mouvement qui tourne vers lui, en détournant des illusions et des non-sens. Donc en pratique, il visait cela. Alors il y aurait d'autres aspects pratiques, mais bon, il ne faut pas que je réponde trop longtemps, il n'y a pas d'autres questions. Mais je signale une méditation très très belle de Kierkegaard dans ses discours chrétiens. Le philosophe donc, sur Kierkegaard, montre comment c'est seulement dans la connaissance du Dieu éternel, tel que j'essayais de le décrire, il est possible de jouir du moment présent. Contrairement, ce moment présent échappe entre les doigts, que ce moment présent est comme opprimé sous le poids de l'angoisse quant à l'avenir, où on essaie de tuer le temps. C'est comme un don de Dieu qui n'est pas donc un absolu en lui-même, ce don, que le présent peut être goûté. Et ça aussi, c'est dans l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste montre comment, dans la reconnaissance du Dieu éternel, qui nous donne accès à son éternité, eh bien alors il est possible de jouir de la vie. Il donne l'exhortation. Profitant, c'est le don de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Vouloir t'en priver, en fait, ce serait comme tourner le dos, mais c'est insultant, à la bonté de Dieu dont tu dépends. Et c'est très pratique, non? Oui. Oui. Il me semble que le fait d'être dans le temps est un trait, une dimension de l'existence humaine qui unit les humains. C'est ce que j'ai voulu évoquer en disant nous avons tous la même heure à notre monde. Je vous prends une minute près, mais c'est très impressionnant notre introduction. Nous nous donnons un point de rendez-vous, ça y est, tout le monde est là. Nous venons de tous les coins du monde. C'est extraordinaire. Vous roulez dans la campagne, toutes les gares, tous les clochers, la même heure. Il y a dans cette condition temporelle de l'être humain, à laquelle nous participons tous, un lien qui unit les humains d'une manière qui, pour moi en tout cas, est très très frappante. Donc je verrai là plutôt un trait qui unifie. Ce qui différencie les individus, c'est à partir de la capacité de s'exaucer au-dessus de ce flux rythmé dans lequel nous sommes pris, c'est la disposition que chacun prend. Et en particulier, la disposition radicale entre une absolutisation du temps, un effort pour échapper au temps, ou la reconnaissance du Dieu éternel qui fonde le temps, qui lui donne sa valeur, mais qui relativise aussi, le met à sa place, la réalité relative. Mais je pense qu'on pourrait dire qu'il y a aussi d'autres dispositions plus quotidiennes qui correspondent à l'usage de cette capacité. La gestion du temps est aussi une marque de ce dépassement par chaque être humain. Et là, ça diffère d'individu à individu, c'est clair. Et jusqu'à un certain point, de culture à culture aussi. Les individus sont façonnés par les cultures. Moi, je dirais une multitude d'appréhensions personnelles ou de gestion personnelle du temps, mais j'hésiterais à dire une multitude de temps. Oui. Parce que je tiens tellement à cette pensée que le temps est un lien de communauté. Oui, alors votre question est très intéressante. Je vais essayer de répondre assez clairement. Je ne suis pas sûr que les facteurs historiques que vous évoquez soient les seuls qui expliquent les reproches qu'on a faits. Mais pour l'instant, en tout cas, je parle de ces facteurs. En effet, je crois qu'il y a eu manque de mise en valeur du temps comme il l'est dans la mise en valeur dans la Bible à cause des influences qui ont été évoquées. Alors il y a celle du platonisme, de la notion d'éternité qui ipso facto dévalue le temps. Si l'éternité, qui est la plénitude, ne comprend en elle aucune succession, aucun avant ou après, cela veut dire donc que tout ce qui est de l'avant ou de l'après n'est que d'un niveau inférieur. Okay. Dans une échelle de valeur ne peut se trouver qu'assez bas. Il y a une réduction de la réalité parce que les choses sont ce qu'elles sont, comme elles sont pour Dieu. Alors, comme Dieu les voit, si pour Dieu, avant ou après, ça ne compte pas. Et du coup, effectivement, à la fois pour la perception de l'histoire et pour la perception de l'histoire générale et de l'histoire individuelle, je pense qu'il y a eu déficit dans la tradition chrétienne même, au dépit de la présence de la Bible. Et puis, il n'y a pas eu seulement le platonisme, il y a eu aussi le stoïcisme qui a joué un rôle très très important pour tout ce qui était de la morale chrétienne individuelle. Or, le stoïcisme, que Breyer appelait une philosophie bloc, est moins net quant à ce temps qui est, que cette éternité qui est au pur présent, mais, à coup sûr, il comprime la diversité des temps. Et c'est un fatalisme qui se présente comme tel. Et cela, donc, a dû poser aussi sur la manière chrétienne de gérer le rapport au temps. Là, je reconviens, donc cela fait deux éléments alors, dans le sens de votre hypothèse. Et je pense que les reproches viennent aussi de ce que il y a un refus de ce que je crois vérité biblique, de la souveraineté de Dieu sur le temps. Parce qu'on imagine cette souveraineté à la manière du fatalisme, ce qu'elle est, ne doit pas être. Mais je pense qu'il y a là aussi une méprise et on s'élève au nom d'une conception de la liberté qui n'est pas biblique non plus. Hein. C'est pour ça que le sujet est complexe. Oui.
Est-ce que le temps a été introduit comme une donnée vraiment relative, comme une manipulée, comme une indifférence? Est-ce que ces nouvelles avancées scientifiques semblent apporter de l'eau à votre moulin, peut-être, comment est-ce que vous l'expérimentez?
Alors, vous pouvez remarquer quand même pas parler, parce que je ne suis pas très compétent, je ne suis pas scientifique, et j'ai quelques lectures, mais je risque de dire des bêtises. Je crois que beaucoup en ont dit, donc c'est un avertissement. Il y a eu une controverse courtoise entre Bergson, qui n'était pas n'importe qui, c'était le grand phare de la pensée française à son époque, et Einstein. Bergson a cru pouvoir s'opposer à Einstein, dans les années 20 sont passées, et en fait, comme le montre très bien Alain Sokal et Jean Bricmont dans leur livre sur les impostures intellectuelles, personne s'est trompé, personne n'a pas compris. Et pourtant, aujourd'hui encore, c'est ce qu'il montre, on écrit l'histoire sans prendre en compte cette erreur de Bergson et sans le dire clairement. Un livre qui inclut des données sur ce que vous évoquez, sur l'apport des sciences, le livre de Bernard Pietre sur philosophie et sciences du temps, glisse sur ce débat de Bergson-Einstein sans dire clairement que Bergson s'était trompé. Alors pour moi, c'est un avertissement que Bergson ne soit trompé et que ça continue à être du flou pour un certain nombre d'auteurs jusqu'aujourd'hui, alors que des scientifiques très très nets et clairs comme Sokal et Bricmont ont bien établi que Bergson s'était trompé. Donc je me méfie. Je sais aussi que on a un peu ironisé sur les philosophes et les théologiens qui ont essayé après que Einstein avait publié de repenser le temps, puis finalement ça n'a pas abouti à grand chose. Cela dit, ce que j'ai compris, je crois avoir compris, me semble s'accorder aisément avec ce que je retire de la Bible, ce que la théorie de la relativité générale a exclu, c'est le temps newtonien qui est un absolu, au titre d'un cadre, d'un ensemble de coordonnées, mais c'est un temps qui est absolu en fait. Pour lui, c'est peut-être l'essence du vide en fait. Mais ça, c'est ça qui a été exclu au profit d'une conception du temps et de l'espace comme deux dimensions liées dans l'univers concret. Ce ne sont pas des dimensions qui existent abstraitement dans lesquelles l'univers se situe, c'est l'univers. C'est une part de la description de l'univers. Et si l'espace est courbe, l'espace-temps est courbe, il s'agit des masses de l'univers réel tel qu'il est. C'est la distribution de ces masses qui implique ce qui est appelé par les savants, puis je ne prétends pas vraiment tout à fait comprendre ce que ça veut dire, mais sa courbure. Et alors cet aspect-là, donc l'espace et le temps sont des dimensions de l'univers concret tel qu'il existe, et non pas des cadres abstraits préalables, ça me semble très bien convenir à la notion biblique de création. Dieu crée le monde, et il le crée avec ses dispositions, avec ses rythmes de fonctionnement. Voilà ce que j'ai pu comprendre. Autrement, deux autres points, et là deux, puis aussi mon incertitude. Je crois, d'après les lectures que j'ai faites, en dépit de certains débats, qu'il y a accord sur le fait que la flèche du temps doit être affirmée pour le monde réel. Il y a des débats sur des temps imaginaires, par exemple. Hawking parle de temps imaginaires. Donc il y a des débats de théoriciens difficiles à suivre. Ce sont des temps qui ne seraient pas fléchés, pas une direction unique, irréversible, mais même Hawking est d'accord pour reconnaître que le temps du monde réel est fléché. Donc, cela aussi, ça convient bien à la notion biblique d'un temps qui, manifestement, est fléché, qui ne va pas dans tous les sens, mais dans l'unique sens du début à la fin. Et puis, dernière remarque, les difficultés surfissent avec le temps des particules élémentaires. Quand on fait la physique au niveau quantique. Alors ma question, mon incertitude, d'une part, là je ne peux pas me prononcer du tout, je ne suis pas du tout compétent, je sais qu'il y a des thèses quand même qui s'opposent, deux physiciens de très grand renom les uns et les autres. J'ai été impressionné par le livre de Franco Celeri dans la collection Champagnat sur la physique quantique. Alors, j'ai compris au moins quelque chose de ce livre-là. Donc, j'ai vu que des thèses diverses s'affrontent encore. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est possible d'imaginer des strates par rapport à la temporalité? Au niveau quantique, il y ait des caractéristiques du temps qui ne valent pas au niveau macroscopique, qui est celui de notre vie, qui est celui auquel s'intéresse l'enseignement public. Alors, ce qui peut être établi ou non établi pour les particules élémentaires, c'est de toute façon autre chose. Voilà comment je réagis sur ces questions où je ne prétends pas à grande compétence. Oui, mais c'est très spéculatif, disons. Je ne veux pas l'exclure, mais je ne sais pas trop l'affirmer non plus. Alors j'ai suggéré un thème pour la réflexion, ce n'est bien sûr pas le tout de la réponse à la question qui est posée, mais je voudrais exalter encore la fidélité, le thème de la fidélité. Je pense qu'il est particulièrement important aujourd'hui, où l'avatar moderne poste de la modernité glisse vers un éparpillement glorifié comme tel, une infidélité valorisée comme telle. Il me semble que cette permanence qui implique une certaine discipline sur soi, pas céder à l'impulsion de l'instant, ce thème de la fidélité doit être repris, médité, approprié. Et il touche pas mal de domaines. Donc ça, c'est un élément de réponse. Un autre élément de réponse, c'est que je crois que pour la gestion de ce temps que nous sommes capables d'unifier, nous ne pouvons pas embrasser toute l'histoire comme Dieu le fait, pour ce temps-là, nous avons besoin des directives divines. Moi, j'en éprouve très, très fortement le besoin. Je ne crois pas que nous tirions de notre analyse de la temporalité suffisamment de précision pour la conduite à tenir. Et donc, si vous me demandez comment bien gérer le temps, bon, c'est un peu l'enseignement de la Bible sur ce qu'il convient de faire chaque jour. La prière d'oraison dominicale peut être évoquée déjà. Demander au Père Céleste le pain quotidien, donne-nous aujourd'hui, lui demander le pardon des fautes, mais généralement la rémission des dettes que nous avons contractées par des actes qui sont des transgressions de la règle, et lui demander de nous délivrer du mal ou du malin. En fait, je crois que la traduction, juste avec pas mal de commentateurs, serait « délivre-nous du malin ». C'est la puissance personnelle du tentateur et pas seulement le mal de manière plus générale qui est ici en cause. Nous sommes sous le bombardement séducteur ou oppresseur de l'adversaire, et cela aussi un élément par rapport à ce que vous dites.
Est-ce que
Alors je rappelle ce qui est en cause pour que nous soit bien au clair. Donc dans le chapitre 3 de l'Exode, Dieu se révèle à Moïse, et Moïse qui reçoit son ordre de mission, de libération du peuple esclave en Égypte, demande à Dieu, quel est ton nom? Je vais me présenter en ton nom auprès de mes compatriotes, mais ils vont me dire, mais qui t'envoie? Et alors Dieu révèle son nom. Son nom devait se prononcer sans doute en hébreu Yahweh. Il est formé de quatre consonnes, et seules les consonnes sont écrites dans le texte hébreu ancien. C'est pour ça que je dis devait se prononcer comme ça, parce que nous n'avons pas donc les consonnes dans les manuscrits anciens. Et Dieu l'explique ou le paraphrase en disant je suis ce que je suis qui je suis. On peut aussi apposer grec de la grammaire hébraïque, comme le père Roland Deveau l'a plaidé, c'est-à-dire je suis celui qui est, mais littéralement c'est de nouveau je suis. Et puis en abrégé, deux lignes plus loin, je suis. Tu diras je suis, bon, envoyé vers moi. Dans la tradition juive, du fait qu'il y avait le commandement de ne pas prendre le nom de Yahweh en vain, on a préféré ne plus prononcer du tout, sauf le grand prêtre, une fois par an, lors du grand jour des expiations, si je me trompe. Et du coup, on a lu systématiquement à la place le nom Seigneur. On a lu, au lieu de ce nom qui est quasiment nom propre, et expliqué comme il est donc par Exode 3, on a lu Seigneur. C'est comme ça que la Bible grecque, l'Ancien Testament traduit en grec parmi les Juifs, et puis le Nouveau Testament écrit en grec et qui dirigeait cette version grecque du Nouveau Testament, ont rendu ce nom. C'est une substitution, c'est pas une traduction, c'est une substitution. Au lieu de Yahweh, on a lu Seigneur, le Seigneur. Et c'est ce qu'on fait aussi pas mal de traductions de la Bible dans les langues diverses de l'Europe. Par exemple, en anglais, c'est toujours Lord que vous avez. Je crois que pratiquement toutes les versions anglaises utilisent Lord pour Yahweh. Mais à la Réforme, et puis aussi dans la tradition des Bibles françaises, mais à la Réforme, au XVIe siècle, le traducteur de la Bible protestant, c'est un cousin de Calvin, Olivier Tant, a pensé que c'était dommage quand même d'employer le mot Seigneur, qui est un titre, un autre verset, où parfois les deux sont employés. Alors, le Seigneur éternel, ça pouvait se dire, mais le Seigneur Yahvé, mais Seigneur, Seigneur, ça ne pouvait pas. Alors, les Juifs disent à ce moment-là Seigneur Dieu. Ils remplacent Yahvé par Dieu dans ce cas-là. Alors, il s'est dit, c'est gauche. Essayons de trouver un mot français pour correspondre à Yahweh. Et il a choisi l'éternel. C'est pas une traduction, c'est une autre substitution, mais c'est pas celle de Seigneur, c'est pas la substitution classique. Ça s'est bien implanté dans le protestantisme, et même les juifs l'ont reprise aussi, la Bible du rabbinat, sous la direction de Zadok Khan, utilise aussi l'éternel. Donc ça n'a pas été seulement protestant, aussi certains juifs. Mais les catholiques ne l'ont pas repris. Alors est-ce que ça a un lien avec le sens de Yahvé expliqué par Exode 3 ? Je suis. C'est ce que certains ont pensé, mais c'est quand même pas très très clair. C'est pas le mot éternel, vous avez le mot éternité, qui est employé aussi comme adjectif pour éternel dans l'Ancien Testament, c'est pas celui-là. Celui qui est dans l'Ecclésiaste et qui est le mot courant, c'est Olam, c'est pas du tout le je suis. Donc, Olivier Tant et beaucoup d'autres ont pu dire je suis, donc je suis permanent, je suis toujours là, donc éternel. On peut dire que c'est un lien de sens, mais d'autres disent que c'est quand même pas la notion d'éternité, c'est la notion d'être. Je pense pour ma part qu'il est plus sobre de revenir à ce qui a été l'habitude des Juifs à l'époque de Jésus-Christ lui-même, qui est l'usage du Nouveau Testament, et de la majorité des chrétiens ou les divers pays autour des âges, et d'utiliser Seigneur, puisque le Nouveau Testament a en quelque sorte sanctionné cette façon de dire. Et dans la révision de la Bible second à la Colombe, nous remplaçons l'Éternel par Seigneur. Il va paraître au mois de mars prochain, je dis nous parce que j'ai fait partie de la petite équipe qui a révisé cette Bible, nous avons travaillé nous autres, je pense, donc le travail est terminé. Elle est à l'impression, le stade, disons, quant à l'impression, elle paraîtra comme Bible d'étude au mars prochain, et donc je peux vous faire savoir que elle remplace la traduction, disons, la traduction entre guillemets, habituelle aux protestants, l'Éternel, par Seigneur, comme ça a été plus courant dans la plupart des traditions chrétiennes.
Je vais juste préciser que c'est la dernière question sur le cœur de la piété.
Excusez-moi, j'espère que ma voix ne vous gêne pas trop. Hein, je suis encore dans un grand rhume, mais je suis très reconnaissant d'avoir réussi à parler jusqu'à ce point, mais c'était un peu désagréable d'entendre.
Dans ce Et vous avez parlé justement de la philosophie de la modernité qui a finalement transformé l'idée d'absolu et de matérialisme. C'est-à-dire que l'absolu est finalement sous l'intérieur. Et vous avez justement évoqué la modernité, la modernité forte, et donc qui en fait à constater l'échec de ce projet moderne.
Oui, c'est un sujet de débat aujourd'hui et une question très intéressante. Alors, je résume ma position que j'adopte, mais qui est révisable hein, sur une telle question. D'une part, je pense qu'on doit noter que ce relativisme, il ne date quand même pas des années 80. Cette modernité post est très nietzschéenne, et chez Nietzsche, par exemple, déjà, c'est affirmé très haut et clair. Donc, il me semble qu'elle est au courant de la modernité déjà depuis un bon moment. Ce qui me semble, je dirais, remettre en cause l'idée d'une ère nouvelle radicalement autre. Ensuite, ce que je remarque, c'est que ce relativisme des modernes post, comme je préfère les appeler, est un relativisme quand même assez sélectif. D'une part, pour la plupart des gens, pas tous, je suis d'accord, il y a quelques extrémistes, mais pour la plupart des gens, la science reste à peu près intacte. Et ils ne suivent pas Feyerabend, qui lui est extrémiste, et dit que même en science, n'importe quoi est admis, et de ses causes, ce n'est quand même pas l'expérience de ces... Moi, s'il y a des centaines de milliers de scientifiques dans le monde aujourd'hui, ça résiste. Hein. Il y a là, même chez des gens qui sont postmodernes en ce qui concerne leurs valeurs, leur morale, etc., là, il y a une confiance dans la science et ses procédures qui demeurent très fortes. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est que je crois que l'absolutisation, elle demeure quant à la liberté. Et que la joie relativiste qui est exprimée, peut-être est-ce une joie un peu factice, c'est un désespoir qui se farde, mais cette joie, c'est une joie d'affirmer sa libération, aucun absolu justement, pour apporter à ma liberté la moindre borne, lui infliger la moindre discipline. Il y a une glorification de la liberté comme pure. Et donc il semble qu'il y a toujours une absolutisation de la liberté qui est en cause. Alors, est-ce une chance pour nous? Je crois que la diversité des productions intellectuelles et culturelles de ceux qui ne connaissent pas le Dieu de la Bible de façon personnelle, cette diversité nous présente toujours des points forts et des points faibles, des éléments d'accrochage et des éléments de répulsion par rapport au message, qu'il est certainement utile pour nous, bien faisant que certains gros remparts intellectuels, gros blindages contre l'Évangile aient été abattus par les changements de la modernité post. Il est sûr que pour quelqu'un comme moi, c'est époustouflant de voir ce qu'il en a été du marxisme. Quand j'étais étudiant, j'ai évoqué les 50 ans, pratiquement toute la Sorbonne était marxisée, et ça s'est encore accentué dans les années qui ont suivi. Le seul que j'ai entendu, que j'ai beaucoup apprécié, mais il était pratiquement seul à tenir vraiment tête, c'était Raymond Aron. Je me rappelle qu'il y a quelques leçons de Raymond Aron que j'ai dit, quelle supériorité d'intelligence, mais j'étais très isolé. Et dans les années 70, le basculement qu'il y a eu, c'est en même temps une leçon sur la précarité des forteresses qui paraissent les plus solidement établies dans le monde académique ou parmi les intellectuels. Alors, bien sûr, je crois que ce changement a permis l'ouverture au moins de certaines personnes, qu'il y a des occasions nouvelles, intéressantes, de remise en cause, de réflexion nouvelle, donc de ce côté-là c'est positif. Je pense aussi que le relativisme lui-même en matière